Mais d'abord, Luc Lavoie, 14h, un petit peu, là, 14h un petit peu passé. Évidemment, c'est ton tour du monde.
Me voici.
Et te voilà.
Et on commence au Québec. Mm-hmm. 61 morts supplémentaires dans les 24 dernières heures, 4363 au total, 530 nouveaux cas de contamination qui nous portent à plus de 50 000, c'est-à-dire précisément 50 232. Et les experts de l'Institut de santé publique du Québec ont rendu public des nouveaux scénarios d'évolution de la pandémie qui tiennent compte du report de la réouverture des écoles. Il prévoit environ entre 1 000 à 1 500 nouveaux cas par jour dans le Grand Montréal. Je trouve le chiffre pas mal élevé. Mais quoi qu'il en soit, du côté des décès, alors qu'on projetait en date du 7 mai jusqu'à 150 décès par jour en juillet,
oui.
Les experts prévoient maintenant une moyenne qui se situerait entre 15 et 30 décès par jour en fonction du respect fort ou faible des consignes de la santé publique.
Mais ça, c'est une excellente nouvelle, Luc, parce que tu te rappelles,
une excellente
ça avait causé une méchante commotion quand ils avaient sorti ces chiffres-là, 150 morts par jour en plein mois de juillet.
On là, avait fait un saut tous.
Ben oui. Alors, dans le fond, c'est comme s'ils réajustaient un peu le tir, eux autres. Et puis, ben ils le font, tu l'as bien dit, parce que le gouvernement du Québec a décidé d'annuler le retour en classe, repousser la réouverture des commerces. Bon.
À leur défense, les scénarios précédents s'appuyaient sur l'annonce qu'on allait réouvrir les écoles.
Oui.
Alors là ils s'ajustent en fonction de ça.
Exact.
Et que les commerces ouvriraient plus vite qu'ils ont effectivement ouvert.
Tout à fait.
Enfin, le docteur Gaston Dessert, le médecin épidémiologiste à l'INSPQ, a tenu à souligner, et je le cite, « Je pense qu'il y a un message vraiment important dans le rapport qu'on vient de présenter, c'est que l'épidémie va dépendre de façon critique de comment les gens vont respecter toutes les mesures pour se protéger. Le rapport indique aussi qu'ailleurs au Québec, la situation est toujours aussi stable et que tout porte à croire que l'aplatissement de la courbe va se maintenir. »
Oui, c'est ça.
Il y a Montréal, puis il y a le reste.
Ben
voilà,
ouais.
Le début.
Puis je vais te dire, par moment, on est très encouragé, Luc. Puis à d'autres moments, on voit des images de la vie quotidienne à Montréal, puis on se dit, il y en a qui comprennent vraiment rien.
Il y en a qui comprennent vraiment rien, en effet.
Bon.
Allons au Canada.
Oui.
6981 morts, 89 962 cas. Et l'économie du Canada a connu sa pire performance depuis 2009 au premier trimestre en raison des mesures prises pour freiner la pandémie. Selon Statistiques Canada, le produit intérieur brut a chuté à un taux annualisé de 8,2% au cours des trois premiers mois de l'année. Évidemment, des chiffres, c'est un peu technique pour nos auditeurs, mais croyez-moi, une chute de 8,2% du PIB, c'est beaucoup, c'est énorme.
Oui, oui, tout à fait.
À l'échelle du monde, 5 971 162 cas, 364 301 morts. Les États-Unis ont recensé jeudi 1297 nouveaux décès, portant le total à 103 027. On y dénombre 1 761 382 cas confirmés. Mais à l'heure actuelle,
ouais.
Ce qui retient l'attention aux États-Unis a peu à voir avec la COVID-19. On va en parler. À Minneapolis, t'en as parlé tout à l'heure avec notre ami Donald Cucciarelletta.
Oui.
À Minneapolis, les manifestations contre les volants en violence policière ont dégénéré pour la troisième nuit consécutive. Un poste de police a été incendié et une trentaine de commerces ont été pillés. Donc, ces émeutes, on le sait, font suite à la mort lundi soir de George Floyd, un noir de 46 ans qui a été étouffé par le genou d'un policier qui l'a littéralement regardé mourir avec les mains dans les poches.
Et là, il a été arrêté. Il a été, le policier.
Il est arrêté dans la dernière heure.
Voilà, dans la dernière heure, le fameux policier là qui a tué.
Derek Chauvin.
Oui, Derek Chauvin. Voilà. Oui, c'est ça.
Alors, hier après-midi, le gouverneur de l'État du Minnesota, un démocrate, Tim Walz, a signé un décret pour autoriser l'intervention de la Garde nationale. Ça, c'est l'armée que chaque État possède. Ce matin, 500 soldats étaient déjà à pied d'œuvre pour rétablir le calme dans la ville. Et là, un tweet du président Trump a été signalé ce matin par Twitter pour « apologie de la violence
oui. ».
Dans un tweet, il est allé très loin, disant après une conversation avec le gouverneur de l'État que l'armée était disponible pour rétablir la situation, précisant que dès que le pillage débutera, la fusillade débutera.
Looting, hein, en anglais, le looting. Donc,
ouais,
pillage, vandalisme. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui.
Alors, Trump était évidemment ulcéré par Twitter. Il a signé hier un décret visant à limiter la protection des réseaux sociaux et la latitude dont ils bénéficient dans la modération de leur contenu. Plus tard aujourd'hui, ça nous rassure tout le temps. Plus tard aujourd'hui, le président Trump doit tenir une conférence de presse consacrée à la Chine.
Hey,
je le cite, « Nous annoncerons ce que nous allons faire vis-à-vis de la Chine. Nous ne sommes pas contents contre la Chine. » Selon le New York Times, le président annoncera l'expulsion des milliers d'étudiants chinois qui sont en lien avec des écoles militaires chinoises. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré « Ces étudiants ne devraient pas être ici dans nos écoles à espionner. Le président Trump, j'en suis persuadé, va s'attaquer à ça. Je ne veux pas devancer ce qu'il va dire, mais il faut que les Américains sachent que le Parti communiste chinois a tissé une énorme influence ici aux États-Unis. » D'après l'Institut de l'éducation internationale, les Chinois sont les étudiants étrangers les plus nombreux aux États-Unis. Écoute bien ça, je ne le savais pas. On parle de 370 000 étudiants chinois aux États-Unis.
Tu vois, Luc, c'est énorme. Je ne doute pas, moi, qu'il y ait parmi ces étudiants-là plusieurs étudiants qui espionnent au profit de l'État communiste chinois.
J'en suis personnellement convaincu.
Puis c'est peut-être même très important en termes de nombre. C'est peut-être, regarde, je dis n'importe quoi, là, mais ça se peut que plus de la moitié d'entre eux soient enrôlés d'une manière ou d'une autre. Certains vont dire, ils le sont tous, pour pouvoir gagner ton droit de sortir de la Chine puis d'aller étudier à l'étranger. Il faut que tu fasses ton service à l'État.
Ouais, hein? Exactement. Bon. Exactement. Tu as tout à fait raison.
Maintenant, Luc, je te pose la question.
Pourquoi maintenant?
Ben, puis de les expulser maintenant. Mettons qu'effectivement, il y en a là-dedans qui espionnent. Il y a aussi, parmi ces étudiants chinois, de futurs dirigeants, de futurs entrepreneurs qui vont rapporter de leur expérience américaine une ouverture à la culture américaine, une ouverture à la démocratie, aux libertés individuelles. Je veux dire, de tous les expulsés comme ça, là, c'est ce qui nous attend. Moi, je pense que ça va contribuer à détériorer encore davantage le climat et à nous rapprocher,
oui,
malheureusement, d'un conflit.
D'un conflit armé, même. Tu vois, je veux loin de moi l'idée de vouloir défendre la Chine. Mais quand on dit que de ces 370 000 étudiants, il y en a peut-être 80 % peut-être plus, peut-être moins, qui font de l'espionnage pour leur pays, pense aux dizaines de milliers d'Américains qui font des affaires en Chine présentement, des succursales de grands groupes américains et tout ça. D'après toi, il y en a-t-il quelques-uns qui travaillent pour la CIA?
Mais évidemment.
Bon, alors, ça se joue à deux, ces jeux-là. Hein?
C'est sûr que ça se joue à deux.
Alors, bon, revenons au Brésil.
Oui.
Au Brésil. Le Brésil, considéré comme l'épicentre de la pandémie, a enregistré jeudi 1156 morts, un nouveau record. 26 417 nouvelles contaminations ont été répertoriées pour un total de 438 238 selon le ministère de la Santé, mais les scientifiques estiment que les chiffres officiels pourraient en réalité être 15 fois plus élevés. Et là, écoute ça. Ça, c'est vraiment le Bolsonaro, là, c'est quelqu'un. Là, hein? Mercredi, un juge de la Cour suprême du Brésil a déclenché une opération policière de grande envergure avec une trentaine de perquisitions chez de nombreux proches alliés du président Bolsonaro, soupçonnés de faire partie d'un réseau de diffusion de fausses informations. Ces fausses informations auraient pour but de diffamer des personnalités s'opposant au gouvernement, mais aussi des membres de la Cour suprême. Et parmi les personnes visées se trouvent plusieurs députés, mais aussi des chefs d'entreprise accusés de financer ce réseau. Et là, Bolsonaro n'était pas content. Il a fortement critiqué l'opération. Il a parlé de la décision individuelle d'un juge. Et là, c'est une traduction qui vient de l'agence France Presse. Je ne sais pas quel mot il a employé, mais eux autres disent « C'est fini, putain! On ne peut plus admettre ces attitudes individuelles d'un juge. » Et là, il dit « Soyons prudents, quelque chose de grave est en train de se produire dans notre démocratie. » Oui, effectivement, c'est lui la chose grave.
Celui qui menace la séparation des pouvoirs, c'est lui, là.
Et un sondage réalisé auprès de plus de 2000 répondants indique que la cote du président est en train de dégringoler. 43 % jugent la gestion du pays par Jair Bolsonaro de mauvaise ou très mauvaise, contre 38 % le mois dernier et 30 % il y a un an. Mais un peu comme Trump, ceux qui considèrent sa gestion bonne ou très bonne continuent de représenter un tiers de la population. Je te rappelle que le Brésil demeure le deuxième pays le plus durement touché par la pandémie, juste derrière les États-Unis.
Une chance que l'armée brésilienne a déjà précisé qu'elle n'embarquerait pas dans ces éventuelles tentatives de putsch ou de coup d'État, hein?
Non, effectivement. Puis n'oublions pas aussi que Bolsonaro est un ancien officier de l'armée. Il doit avoir quelque chose. Enfin.
Il y a peut-être quelques appuis, effectivement.
En effet. En Russie, avec 232 morts en 24 heures, la Russie a enregistré aujourd'hui un nouveau record quotidien de décès. Les chiffres officiels parlent maintenant de 4374 morts, mais au cours des dernières 24 heures, ce chiffre est assez frappant. 8572 personnes ont été testées positives. En Espagne, intéressant, le gouvernement espagnol a approuvé ce matin la création d'un revenu minimum vital, ce qu'on appelle ici le revenu minimum garanti,
ouais,
pour lutter contre une pauvreté sérieusement aggravée par la pandémie. Et je cite les propos de Pablo Iglesias, le vice-président du gouvernement, « Un nouveau droit social est né aujourd'hui en Espagne. Ce revenu minimum vital a été fixé à 462 euros par personne par mois, soit 707 dollars. Pour un adulte vivant seul, les familles toucheront mensuellement 139 euros ou 212 dollars pour chaque personne supplémentaire avec un plafond fixé à 1 015 euros, c'est-à-dire 1 550 dollars par foyer. » Et là, on va finir sur une note un peu plus amusante.
Mm-hmm.
En Inde, des singes ont dévalisé un cabinet médical et se sont emparés d'échantillons de tests pour la COVID-19, suscitant la crainte que les primates, qui se livrent souvent au pillage, ne contribuent à propager le virus.
Ouais.
Les singes se sont emparés de 3 échantillons dans ce cabinet médical situé en banlieue de New Delhi avant de s'enfuir et de grimper sur des arbres à proximité. L'un des singes a mâchouillé son butin. Les autorités municipales de New Delhi ont eu recours à des singes langurs à longue queue pour affronter et repousser les singes voleurs qui sont plus petits. Quand le docteur Arruda sera là, essaie de lui en parler. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec nos singes?
On veut pas le savoir, on veut le voir. Comme disait Deschamps dans le temps, Yvon Deschamps.